Les cours du Collège de France, William Marx, chaire littérature comparée.
Mesdames, messieurs, je sais que certains d'entre vous attendaient ce cours sur la citrouille de Cendrillon depuis l'an dernier. Je l'avais annoncé pour le 16 janvier 2024 et il arrive aujourd'hui le 18 mars 2025. Vous voyez, tout arrive, les promesses sont tenues, mais je n'avais rien garanti sur le délai. Et à ce rythme-là, j'ai calculé qu'il me faudrait encore 7 ans pour terminer mon programme de l'an dernier. Bien, je vous remercie par avance de votre patience. Alors, nous avons vu mardi dernier qu'Elaine Castillo, l'écrivaine philippino-américaine dont nous lisons l'essai de critique littéraire « How to Read Now », s'insurgeait violemment contre le régime formaliste de la lecture, contre cette appréciation formelle des textes qui a été, je vous le disais la dernière fois, le résultat d'un siècle de recherche, un siècle de réflexion, un siècle de combat, pour faire de l'esthétique un critère de jugement et d'évaluation indépendant du contenu même des œuvres. Et toute cette construction théorique et scientifique, audacieuse, très subtile, qui a consisté à vouloir mettre en évidence cet objet très élusif, très fuyant, qu'est la forme des œuvres, quel que soit le médium, et en particulier concernant les œuvres littéraires. Toute cette construction pour mettre en évidence la forme, quelque chose qui est très difficile à définir, tout cela qui a permis de créer, au bout du compte, un espace de liberté et de création pour les auteurs, indépendamment de leurs convictions politiques, de leurs convictions religieuses, indépendamment de leur origine. Tout cela vole à présent en éclats. Et désormais, l'auteur est comptable de ses opinions avant toute chose. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une régression de l'histoire et une régression des libertés. Au nom, et c'est cela qui nous importe ici, puisque c'est le sujet de ce cours, au nom de la dignité infrangible du lecteur et de la lectrice. Car pour Elaine Castillo, jamais le lecteur ou la lectrice ne saurait, un tant soit peu, oublier qui il est, qui elle est, et d'où il lit, d'où elle lit. Pour celles et ceux qui y étaient, vous savez peut-être que dans les années 1970, on demandait, dans les débats politiques, entre amis par exemple, ou ailleurs, d'où parlez-vous ? D'où parlez-vous ? Ben, maintenant, c'est aussi d'où lisez-vous ? D'où lisez-vous ? D'où vient ma lecture ? Qui suis-je, moi, devant ce texte que je lis ? Est-ce que ce texte me correspond ? Est-ce que ce texte s'adresse à moi ? Dans ce système, dont Elaine Castillo est juste une représentante, hein, parmi d'autres, mais une bonne représentante, dans ce système, à aucun moment, je ne dois oublier mon identité, ma communauté, lorsque je lis une œuvre. Ma lecture est toujours située. Et donc, c'est la fin de l'idée d'une lecture impersonnelle des œuvres, cette idée d'une lecture impersonnelle qui dominait la critique littéraire formaliste, à savoir une lecture fondée sur des critères esthétiques objectivables, sur des paramètres formels, universalisables, généralisables même, hein, généralisables à toutes les cultures. C'est l'idée, vous savez, cette idée d'une forme généralisable à toutes les cultures, c'est l'idée de littérarité, hein, literaturnost en russe. Hein. Ce concept introduit par le linguiste Roman Jakobson en 1919. La littérarité, à savoir l'idée que la littérature est reconnaissable en tant qu'objet formel dans toutes les cultures et à toutes les époques. Eh bien, cette idée de l'impersonnalité du lecteur, un lecteur qui est supposé mettre entre parenthèses ses convictions et ses croyances pour apprécier l'œuvre, cette impersonnalité du lecteur était à bien des égards symétrique, en fait, de l'impersonnalité de l'auteur. L'impersonnalité de l'auteur est un thème bien connu de la critique formaliste et qui a été beaucoup thématisé et promu par des gens comme T.S. Eliot ou Paul Valéry. Lisez Valéry, ah, le nom arrive, donc je le cite. Ce n'est jamais tout à fait un hasard. Mais cet extrait du cours de poétique. Si nous pensons véritablement son opération, Racine n'est plus Racine, Archimède n'est plus Archimède, etc. Nous concevons un écart de l'état de Racine pendant lequel Racine oublie qu'il est Racine et ne pourrait s'en souvenir sans cesser d'opérer. Pour que Racine soit Racine, pour que Racine puisse composer Phèdre, il faut qu'à un moment donné, dans l'opération d'écriture, il puisse oublier qu'il est lui-même Racine. Car lorsque vous composez des vers, vous devez être capable de vous abstraire de vous-même, de regarder ce que vous avez composé et de pouvoir avoir un regard critique, distancié, sur ce qui vient de vous. Donc cette impersonnalité, elle est nécessaire à la composition même, à la belle œuvre. Pour Valéry, l'auteur est devenu en quelque sorte une machine intellectuelle à composer des vers. Mais pour ce faire, l'auteur doit devenir lecteur de ses propres vers, il doit se relire comme un lecteur lambda, il doit se mettre à la place du lecteur quelconque pour se critiquer lui-même et pour améliorer sa production. C'est une expérience que Valéry fait souvent un peu au hasard. Il est devant une vitrine de libraire, il voit des vers exposés, comme ça, un livre avec des poèmes. Ben, voilà, le bon vers, c'est celui qui résiste, et le mauvais vers, c'est celui qu'on change spontanément. Spontanément, voilà, ça c'est la réaction du poète machine devant le vers. C'est-à-dire lire toute chose comme venant d'ailleurs. Et Valéry a aussi ce propre regard devant ses propres vers. Lire ses propres vers comme si on ne les avait pas faits soi-même. Et donc cela suppose la possibilité d'une certaine impersonnalité de la lecture. On doit pouvoir se détacher de soi. Eh bien, cette impersonnalité du lecteur a fait long feu. On assiste désormais au retour du lecteur en tant que personne. Personne, historiquement et socialement située, personne représentante d'une identité, d'une communauté, d'un groupe ethnique ou racisé. Et moi, en tant que lecteur d'aujourd'hui, si je me mets dans ce système-là, je ne dois plus moi-même me mettre entre parenthèses. Et je veux reprendre les belles formules d'Hélène Castillo que je citais la dernière fois, celle que j'ai ici surlignée en jaune. Ces belles formules qui définissent un peu ce qui devrait être la bonne lecture. Mais j'utilise ces belles formules d'Hélène Castillo un peu contre elle-même, à savoir qu'il faut savoir la littérature, c'est un lieu pour se détourner vraiment de soi-même, pour s'humilier dans sa vulnérabilité, pour se mettre à nu dans sa propre ignorance. Et il y a une sorte de tension ici entre cet idéal de la littérature, tel qu'il est ici défini par Castillo, et puis peut-être ce qu'elle pratique elle-même. Comme si, alors une tension, si on était plus méchant, on pourrait dire un manque de cohérence, mais peut-être que cette humiliation ne vaut que pour les fameux lecteurs, vous vous rappelez, qui sont dans les festivals littéraires et qui ne viennent là que pour se faire plaisir, dit-elle. Peut-être que cette humiliation ne vaut que pour le lecteur dominant, ne vaut que pour le lecteur blanc, si je puis dire, et pas nécessairement pour les autres lecteurs, ceux qui viennent des classes dominées, qui eux ont plutôt à s'affirmer. Et donc, ben voilà, je ne dois plus me mettre entre parenthèses en tant que lecteur, en principe, mais je dois réagir au texte, je dois même surréagir au texte que j'ai devant moi, en affirmant mon identité face au texte que je lis, et même contre le texte. Le texte servira, pour ainsi dire, de révélateur chimique, de révélateur à ce que je suis, que le texte me séduise ou qu'il me choque, du reste. Je n'ai pas, en aucun cas, je n'ai à m'annihiler, à me dépersonnaliser devant le texte. Parce que cette dépersonnalisation est au contraire l'ultime subterfuge du suprémacisme blanc, white supremacy, hein, dont parlait Hélène Castillo, hein, si je reprends ses propres termes. La dépersonnalisation, c'est le subterfuge qui permet au suprémacisme blanc d'asseoir sa domination et de maintenir les populations racisées dans la soumission. Eh bien, Hélène Castillo incarne parfaitement ce mouvement de repersonnalisation de la lecture. Elle insiste en effet sur le fait que le lecteur prévu par les grands textes canoniques européens, celui que Umberto Eco définissait comme le lector in fabula, c'est-à-dire le lecteur qui est dans le récit, qui est prévu par le récit, le lecteur idéal que vise l'auteur quand il écrit, ce lecteur qui est en quelque sorte construit, espéré, supposé par les textes. Ce lecteur avec qui le texte est supposé produire le maximum de ses effets. Bon, c'est un concept important, hein, ce lecteur qui est construit par les textes et qui est vraiment conceptualisé par Umberto Eco. Eh bien, pour Hélène Castillo, ce lecteur in fabula, c'est un lecteur blanc, mâle, hétérosexuel, de culture standard. Ce n'est pas elle. Mais elle, Hélène Castillo, est justement, elle, en tant que femme philippino-américaine et californienne, lesbienne du 21e siècle, enfin lesbienne et bisexuelle plutôt, elle est justement la lectrice imprévue, the unexpected reader. Et cela, en quelque sorte, est une chance pour elle et aussi peut-être pour les textes qu'elle lit. Et voici ce qu'elle dit ici. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'être une lectrice imprévue, unexpected reader donc, s'est avéré être le cadeau le plus précieux de ma vie intellectuelle. Le fait d'être une lectrice imprévue, une intruse dans tant de monde, signifiait que je n'étais que très rarement en complicité présumée avec un écrivain ou avec le monde qu'il créait. Cela signifiait que j'étais presque toujours perdue et toujours étrangère, et que je devais toujours me frayer un chemin avec le seul outil dont je disposais, continuer à lire. Cela signifiait qu'en grandissant, je ne me sentais jamais visé par un livre, jamais réconforté, interpellé, comme si j'étais la personne à qui le livre s'adressait. Cela signifiait que je me sentais rarement à l'aise dans les dialogues ou les descriptions de qui que ce fût. C'est un très beau passage, vraiment. Un très beau passage qui raconte ce que j'ai appelé moi-même ailleurs dans ce livre, un savoir gay, le sentiment d'étrangement. Le mot étrangeté, en français, désigne le fait que quelque chose devant vous, autour de vous, vous êtes étranger. Bien. L'étrangement renverse la perspective. L'étrangement désigne votre propre sentiment d'être étranger dans un milieu qui pourtant devrait vous être familier. C'est un sentiment, on pourrait dire, d'aliénation par rapport à la culture où vous grandissez et où vous ne pouvez vous reconnaître en raison, c'était ce que je racontais dans le livre, en raison d'une orientation sexuelle différente de l'orientation majoritaire. Et la question, le problème qui était posé dans le livre ici, c'était que, une question parmi d'autres, comment comprendre la représentation fictionnelle, littéraire, cinématographique du désir hétérosexuel si vous n'éprouvez pas vous-même désir-là? Comment vous identifier au héros si vous ne partagez pas la motivation essentielle de ses actions et de l'intrigue? Alors, cet étrangement, j'en parlais, et c'était un concept qui pour moi était important pour désigner ce qui était éprouvé. Mais pour ma part, je reconnaissais, doublant et compensant en quelque sorte ce sentiment d'aliénation, je reconnaissais aussi l'existence d'un autre processus, un processus nécessaire, que j'appelle acclimatation. Acclimatation, c'est-à-dire un investissement que l'on force soi-même, un système complexe de projection, d'identification qui me conduit à revenir dans les œuvres, même celles qui me paraissaient étranges au départ, à revenir dans leur monde de signification par une voie dérobée que je dois inventer et ouvrir moi-même. Et en quelque sorte, vous n'êtes pas condamné à l'étrangeté. Vous pouvez vous réacclimater les œuvres à votre monde par un processus intellectuel complexe. Le lecteur imprévu, en quelque sorte, pénètre dans la culture comme un voleur. Cette culture majoritaire qui ne correspond pas à ce qu'il ou elle est, elle n'est pas pour lui, elle n'est pas pour elle, elle n'est pas faite pour lui, elle n'est pas faite pour elle, mais il doit néanmoins, il peut en tout cas néanmoins se l'approprier de toutes les manières, dans une oscillation permanente entre l'éloignement complet, l'étrangement, et la réappropriation idiosyncrasique, c'est-à-dire l'acclimatation. Tout cela pour dire que l'étrangement n'est pas un destin imposé. C'est un destin qui vous est proposé, et c'est un destin qui est choisi et qui ensuite peut être assumé. Mais on peut y échapper éventuellement. On peut, si on le souhaite, compenser l'étrangement par l'acclimatation, qui est une manière de se réapproprier une culture étrange par des voies détournées, en resémantisant les structures de sens, les figures, en resémantisant les scènes, les symboles, et donc sans trahir ce que l'on est. Ça, c'est ce que j'essayais de théoriser dans un savoir gay. Tel n'est pas le choix d'Hélène Castillo. Elle refuse l'acclimatation, elle ne mentionne jamais de processus d'apprivoisement des réalités culturelles distantes. Et si elle refuse cela, c'est évidemment pour des raisons politiques, pour maintenir la différence censément irréductible entre la lectrice imprévue qu'elle est et l'œuvre qu'elle est en train de lire. Or, cette position de lectrice imprévue a aussi quelques avantages. Elle l'a conduite à lire les œuvres aussi d'une manière imprévue, avec une sensibilité différente, et à faire ainsi quelques découvertes dans des textes autrement bien connus. Ça a une position avantageuse quand même pour découvrir des aspects auxquels on n'aurait pas pensé des textes. Ainsi, elle relit l'Odyssée d'Homère, elle relit l'histoire homérique d'Ulysse débarquant sur l'île de Polyphème, et en général, bon, voilà, quand on lit ce passage-là, Ulysse, vous savez, débarque sur l'île de Polyphème, eh bien, elle, au lieu de se mettre à la place du héros, ce qui est plutôt ce qu'on fait d'habitude, elle se met à la place du cyclope Polyphème. Ce cyclope qui est un berger, en fait, qui mène une vie paisible avec ses troupeaux et qu'on voit fabriquer du fromage dans sa caverne. Cette île des cyclopes, c'est presque une île arcadienne, à bien des égards. Vous connaissez l'histoire. Ulysse, donc, débarque avec 12 de ses compagnons, il s'introduit dans la caverne subrepticement, à l'absence de Polyphème, il mange les provisions de Polyphème en l'absence du cyclope, Polyphème rentre chez lui, et il ne respecte pas les règles d'hospitalité, hein, xenia en grec, hein, ces règles qui sont si fondamentales dans le monde grec, il dévore deux compagnons d'Ulysse le soir, il en dévore deux autres le matin, il enferme le reste dans sa caverne pour s'en repaître plus tard. Il a son régime qui est tout fait. Mais Ulysse finit par se venger, vous le savez. Il enivre Polyphème, il crève son œil unique, et puis il s'enfuit en lui révélant son nom, ou plutôt un faux nom, personne, hein, outis en grec. Bien, dans cette histoire fondatrice de la littérature occidentale, Castillo voit le geste violent de l'intrusion dans le monde, dans des mondes lointains. Elle y voit le geste du colonisateur. L'héritier direct d'Ulysse, aux yeux de Castillo, c'est Christophe Colomb. C'est Christophe Colomb envahissant les Antilles et qui transforme par là même leurs habitants comme des sauvages. Ulysse est celui, nous dit-il, qui, partout où il va, illustre la civilisation, hein, au désespoir de tous les autres. Ulysse transforme les autres en sauvages, en quelque sorte. Eh bien, Christophe Colomb, pour Hélène Castillo, a fait la même chose. Hein. Il transforme les habitants des Antilles comme des sauvages et il les décrit comme tels dans les rapports qu'il envoie en Espagne. Voilà comment Hélène Castillo lit cet épisode de Polyphème. Alors, on pourrait objecter à cette lecture qu'Ulysse, justement, n'est pas un colonisateur. Il veut juste retourner chez lui. Il y a donc objectivement un contresens dans le rapprochement opéré par Hélène Castillo entre Ulysse et Christophe Colomb. Mais précisément, c'est cette mauvaise lecture, cette misreading, selon le mot que j'aime bien du critique littéraire américain Harold Bloom, misreading ou une mélecture, hein, une mauvaise lecture, comme on dit une méprise, hein, misunderstanding. Cette mauvaise lecture, c'est ça qui caractérise la lecture imprévue. C'est ça qui caractérise the unexpected reader. La lectrice imprévue est touchée par le texte dans un sens auquel on ne se serait pas attendu. Et ainsi, elle fait apparaître quand même quelque chose peut-être auquel on était moins sensible, à savoir cette cruauté d'Ulysse, ce sans-gêne d'Ulysse, une manière de rabaisser ses ennemis, de les dégrader, ce qui en fait effectivement, à certains égards, un ancêtre de Christophe Colomb. Alors certes aussi, Polyphème dégrade Ulysse et ses compagnons, il les considère comme de la viande, bon. Mais au fond, Polyphème, aux yeux d'Hélène Castillo, c'est la première victime. Ce n'est pas lui qui est allé chercher Ulysse. C'est Ulysse qui est entré sur son territoire sans y avoir été invité. Et c'est ce geste-là, ce geste d'aller ailleurs, d'explorer des mondes qui ne sont pas les siens, de s'introduire violemment chez autrui, c'est ce geste-là qui, selon Hélène Castillo, est la faute originelle de la civilisation européenne. C'est ainsi, en tout cas, qu'elle le ressent en tant qu'écrivaine, que lectrice philippino-américaine, en mettant l'accent sur la difficulté de la rencontre entre les cultures. Et c'est ainsi qu'elle se voit elle-même en tant que lectrice, c'est-à-dire elle se voit toujours comme une intruse dans les textes classiques européens. Il y a toujours, nous dit-elle, trahison. Mais c'est une trahison, hein, par la lectrice, une trahison qui est quand même productive du point de vue du sens. Mais j'en viens à Cendrillon. Cendrillon que vous attendez depuis si longtemps. Parce que cette lecture qu'elle applique, qu'elle expérimente sur l'Odyssée, eh bien, elle en fait une semblable, analogue, sur Cendrillon, le conte, donc, de Charles Perrault. Voici ce qu'elle dit. « L'une de mes histoires préférées, quand j'étais enfant, était Cendrillon. J'en ai lu enfant une version dans un livre de contes, puis j'ai regardé et adoré la version dessin animé par Disney. Je me souviens de ne pas m'être particulièrement intéressé à Cendrillon, ni au prince charmant. Vous voyez, ça c'est le côté imprévu et unexpected. Hein. Je ne suis pas particulièrement intéressé à Cendrillon ni au prince charmant, mais être totalement tombé sous le charme des cerises ouvrières non blanches, c'est comme ça que je traduis brown mice, parce que justement il y a ce sens-là, hein, que Cendrillon civilise, habille et nomme pour finalement les employer comme ses ouvriers et ses alliés naturels. Hein. Native allies. Alors, il y a ici des jeux de mots, en fait, sur l'anglais, puisqu'il y a ces brown mice, ces souris marron, brunes, mais brown signifie, on l'avait vu, vous rappelez, the angry brown girl, hein, la jeune fille non blanche, la jeune femme non blanche en colère. Hein. Brown signifie aussi ne pas être blanc. Donc, elle s'identifie à ces souris qui ne sont pas blanches, et Cendrillon devient ici une sorte de colonisatrice. Elle civilise ces souris qu'elle transforme en ouvrières et en alliées naturelles, native. Native, bon, ça a tous les sens ici, c'est-à-dire à la fois naturel, c'est alliée par nature, mais aussi native, ça signifie indigène, autochtone. Hein. Donc on voit ici comment Castillo relie ce conte de fées, ben, d'une manière totalement incroyable, hein, à la lumière de sa propre expérience de membre de la minorité philippine américaine, avec une solidarité qu'elle ressent, non pas avec Cendrillon, le prince charmant, mais entre les gens de couleur, une solidarité entre les gens de couleur, les ouvriers, les indigènes. Et donc Cendrillon apparaît à ses yeux comme une colonisatrice. Et Castillo est ainsi attentive à des coïncidences historiques qui pourraient justifier cette lecture-là qui est la sienne. Charles Perrault, poursuit Castillo, Charles Perrault écrivit sa version de Cendrillon en 1697. Ce qui se passa également dans la société française en 1697, ce fut la signature du traité de Ryswick, par lequel l'Empire espagnol cédait l'ouest de l'Hispaniola, l'actuel Haïti, à la France. Les Français baptisèrent leur nouvelle possession Saint-Domingue et firent ce que les colonisateurs européens de l'époque avaient l'habitude de faire. Ils transformèrent la colonie en plantation sucrière, commirent un génocide contre la population indigène Taïno et firent venir des Africains réduits en esclavage pour travailler la terre. Alors, en effet, les Taïno étaient l'ethnie autochtone occupant les Antilles, à savoir l'île de Cuba, Haïti, Saint-Domingue, Porto Rico. Et c'est ici qu'intervient, dans cette histoire-là, c'est ici qu'intervient la fameuse citrouille. J'en parle parce que la version de Perrault est la première version de l'histoire de Cendrillon à mentionner la fameuse citrouille qui devient le carrosse de Cendrillon et l'emmène au bal. Mais la citrouille et les variétés de courge, en général, ne sont pas originaires de France. Elles ne sont même pas originaires d'Europe. En revanche, elles sont originaires des Amériques. C'est un aliment de base des Taïnos. Oui, certes. Alors vous allez me dire, alors quel est le rapport de cette histoire de colonisation avec Perrault, autre que une coïncidence de date, 1697, date de publication des comptes et date du traité de Ryswick, et la citrouille qui vient d'Amérique. Eh bien, nous dit Castillo, c'est que Charles Perrault lui-même, et ça c'est un fait peu connu en général, Charles Perrault a participé lui-même, nous dit Castillo, à la glorification de l'entreprise coloniale. Comment ? Comment ? Eh bien, en rédigeant le livre d'un grand spectacle qui fut donné par Louis XIV en 1662 dans la cour du Louvre. Ce grand spectacle s'appelait « Le Grand Carrousel ». En 1662, continue Castillo, 35 ans avant la publication de la Cendrillon de Perrault, Louis XIV commanda une fête de 3 jours pour commémorer l'avènement de son règne. En fait, c'était aussi surtout pour commémorer son premier enfant, la naissance de son, enfin, pour célébrer la naissance de son premier enfant, le premier fils. La fête s'appelait le Carrousel et avait pour thème la bataille des nations. La première et principale nation était la Rome antique, avec laquelle, écoutez bien ce que dit Castillo, parce que vous allez voir des choses un peu différentes ensuite. Mais la Rome antique avec laquelle la France elle-même fusionnait symboliquement et iconographiquement dans une sorte de métaphore vivante des racines antiques et donc pratiquement divine de l'Empire français. Louis XIV lui-même était représenté comme une sorte d'empereur romain et les héros français étaient décrits comme des descendants de héros homériques tels qu'Achille. Au cours de ce tournoi, l'équipe divine et impériale France-Rome affrontait symboliquement 4 nations barbares. L'Amérique, la Turquie, la Perse et l'Inde. Chacune d'entre elles correspondait à une zone d'intérêt colonial majeur pour la France. La description de l'Amérindien est particulièrement pittoresque. Alors que les autres barbares sont vêtus de soie et de bijoux, l'Amérindien est décrit comme vêtu de peau de bête, presque un animal lui-même. Bref, le festival de la bataille des nations se résumait à un méli-mélo d'histoires fantaisistes, bel exemple de la manière de consolider l'identité nationale par l'auto-agrandissement masturbatoire et la diabolisation délibérée de l'étranger et du dominé. Quelque chose qui, de toute façon, aurait paru trop subtil dans le bordel plaqué or, the gilded shit show, offert par la politique américaine de l'ère Trump. Alors, le rapprochement est quand même assez étonnant. Il faut noter, à la fin, j'insiste, parce que c'est là que le reste est plutôt une présentation historique, un peu faussée, vous allez voir, mais tout de même, il faut noter la façon d'Hélène Castillo de rattacher le Grand Carrousel, c'est son nom officiel, le Grand Carrousel, au virilisme patriarcal, l'auto-agrandissement masturbatoire, ce sont des histoires d'hommes, comme elle la rattache à la situation contemporaine américaine. Elle fait allusion ici au premier mandat de Trump, de 2017 à 2021. Que dirait-elle du second En tout cas, remercions-la tout de même, en tant que Français, de trouver Louis XIV plus subtil que Donald Trump. Je pense que c'est pas mal. Enfin, c'est assez légitime, je trouve. Or, donc, voilà, elle décrit ce tournoi comme étant un tournoi de l'équipe France-Rome contre chacune des quatre autres nations barbares. Donc c'est chaque fois une opposition de la France avec les autres équipes. Mais ce que rappelle Hélène Castillo, parce que jusqu'ici, d'accord, très bien, que fait Perrault dans cette histoire? Eh bien, Perrault rédigea le compte-rendu officiel de ce spectacle. Il n'était donc pas ignorant du contexte colonial de l'époque. Et Castillo poursuit, tel est le contexte de l'auteur des contes de fées que nombre d'entre nous connaissent et aiment aujourd'hui. Tel est le monde qui le façonna et celui qu'il contribua à créer, le monde dont nous avons hérité. Nous savons que les histoires dont nous héritons et que nous effaçons, les histoires dont nous héritons et que nous effaçons, parce qu'il y a un lien, intangible, enfin impossible à casser, entre ce fait d'hériter une histoire et d'effacer par la même les histoires dont nous n'héritons pas. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Nous savons que les histoires dont nous héritons et que nous effaçons, tout comme celles que nous produisons ou ignorons, ne sont jamais neutres ni anhistoriques. Et la force qu'elles véhiculent influence, consciemment ou non, notre lecture du monde et par conséquent, notre écriture. Elles influencent, ces histoires, ce que nous appelons nos classiques, mais aussi quels classiques nous condamnons le monde à ne jamais connaître. Quand nous adoptons certains classiques, nous en excluons d'autres que nous n'apprenons pas, qui ne sont plus nos classiques, ou qui ne deviennent jamais nos classiques. Le conte de Charles Perrault, ce classique de l'Occident, porte de manière indélébile la trace du monde dans lequel il circulait. Tous ces mythes, contes populaires et contes de fées, regorgent de personnages et de faits anonymes, sans l'existence desquels ces contes ne seraient pas possibles, mais dont la présence matérielle passe souvent inaperçue ou demeure souterraine. Il y aurait donc des fées, des génies effacés à l'intérieur des contes classiques que nous lisons, dont les contes de Perrault. Entre les mains de Perrault, une citrouille n'est qu'un objet à transformer en moyen de locomotion, en un chariot, un carrosse plutôt, en un carrosse pour transporter une future épouse princesse, pâle et scintillante. Mais pour d'autres encore, une courge est un monde complet. Un mythe de la création taïno sur la naissance de Porto Rico, qu'on appelle Boricane, pour son peuple indigène, un mythe de la création taïno décrit l'océan tout entier et tous ses habitants comme contenu dans une citrouille. Ainsi, le conte de Perrault aurait effacé un mythe taïno qui est le mythe de la création, un mythe de création du monde. Alors, Hélène Castillo, bizarrement, ne raconte pas ce mythe dans son texte, dans son livre, alors qu'elle aurait pu quand même, je trouve, profiter de l'occasion pour nous instruire sur une culture méconnue. Mais peut-être parce que le résumé très synthétique qu'elle en donne ici en trois mots, ce résumé très synthétique donne au mythe ici une dimension cosmique qu'un récit plus détaillé lui aurait fait perdre. Et elle n'a pas voulu, je crois, perdre en efficacité rhétorique dans son allusion à ce mythe cosmique taïno. Mais nous sommes au Collège de France et je vous dois le récit de ce mythe, de ce mythe taïno auquel fait allusion Hélène Castillo. Alors il m'a fallu quelques recherches pour le retrouver, il n'est pas facile à retrouver. En fait, le mythe est raconté par frère Ramon Panet, un moine catalan qui accompagna Christophe Colomb lors de son deuxième voyage aux Indes en 1493-1494. Ramon Panet fut le premier Européen à apprendre une langue indigène, celle des Taïnos, à des fins d'évangélisation, et il en tira « relación acerca de las antigüedades de los indios », une relation, un rapport sur les antiquités des Indiens. Et ce fut ce livre-là, écrit par Ramon Panet, le premier livre écrit par un Espagnol aux Amériques. Et c'est évidemment notre première source sur l'histoire et les légendes taïnos. Alors le mythe est celui-ci, je le résume à grands traits, moi aussi. Il était une fois, si je puis dire, un certain Yahya, hein, qui avait un fils, et ce fils s'appelait Yahyael, ce qui signifie en langue taïno, ce qui signifie fils de Yahya. Et comme Yahyael voulait tuer son père, bon, ça nous rappelle des histoires comme Édipe, voilà, ou Cronos, ou Zeus avec Cronos, Yahya l'exila d'abord, pendant 4 mois, je crois, puis, ça ne marchait pas, il le tua. Et il cacha les os de son fils dans une citrouille qu'il suspendit ensuite au plafond. C'est une manière habituelle, chez le peuple taïno, de faire sécher les citrouilles pour les manger toute l'année. Et ensuite, chaque fois que Yahya et sa femme voulurent manger dans cette citrouille, eh bien, ils sortaient ensuite de cette citrouille quantité de poissons dont ils se nourrirent, et les poissons venaient de manière infinie, sortant de la citrouille. On comprend bien l'image, comme si les pépins innombrables que vous avez à l'intérieur d'une citrouille s'étaient transformés en poissons. Un jour, pourtant, 4 frères jumeaux, je vous passe l'histoire précise de ces frères jumeaux qui aura un peu rallongé la sauce, 4 frères jumeaux voulurent voler cette citrouille enchantée qui leur faisait, évidemment, envie. Manque de chance, en la volant, ils la firent tomber. La citrouille se cassa en tombant par terre, et il sortit tant d'eau de la citrouille cassée que cette eau couvrit toute la terre, créant ainsi l'océan avec tous les poissons qui étaient aussi dans la citrouille. Et il semble que Christophe Colomb vit aussi aux Antilles des citrouilles que les Taïnos remplissaient d'ossements au moment de la saison de la pêche, comme dans l'histoire de Yahya et de son fils Yahyael. Des citrouilles remplies d'ossements pour avoir une pêche abondante au moment de la saison de la, au moment de la, saison de la pêche. Donc peut-être que le rite était postérieur au mythe ou inversement, parfois les mythes sont explicateurs des rites. En tout cas, voilà selon Castillo le déplacement presque criminel commis par l'Occident colonisateur. Cette citrouille qui, chez les Taïnos, était l'objet central du mythe de création de l'océan, ce qui n'est pas rien, de l'océan et des poissons, sert, dans le conte de Perrault, de simple accessoire, de gadget, pour ainsi dire, pour transporter une princesse blanche, hein, une pale princess. On entend ici une princesse à la peau pâle. Hein. On assiste ainsi à une sorte de dégradation de la valeur et des usages d'un objet symbolique en raison d'une appropriation culturelle, c'est le terme qu'il faut employer, qui efface les origines de ce mythe. Et qui sait même, en effet, si la transformation de la citrouille dans le conte de Perrault ne serait pas un lointain souvenir des légendes taïno. Castillo semble le penser. Or, le conte de Cendrillon par Perrault, a fait oublier, nous dit Castillo, a fait oublier les autres légendes plus anciennes liées à la citrouille, comme celle de la légende taïno, et on lit encore Perrault dans les chaumières, on en fait des dessins animés comme Walt Disney, alors que la connaissance du mythe taïno est réservée à quelques érudits locaux. Bah, le texte d'Hélène Castillo, sa lecture, est une très belle élégie, on peut dire, sur les cultures oubliées, sur les cultures effacées. Bon, maintenant qu'on a lu l'élégie, est-ce que tout cela est exact? Reprenons depuis le début. Alors, il est parfaitement exact que Charles Perrault rédigea le grand livre qui commémora en 1670 ce fameux tournoi du Grand Carrousel des 5 et 6 juin 1662. Voici quelques images qui sont sorties de ce grand livre, donc paru 8 ans après l'événement. Vous voyez, c'était assez grandiose. En fait, vous voyez ici le palais des Tuileries, hein, qui a disparu, comme vous savez, qui a brûlé pendant la Commune. Et vous avez quelques grandes vues comme ça de ce tournoi, d'un côté, de l'autre, hein, toujours avec la vue du palais des Tuileries, et puis du côté de la ville. C'était quand même assez impressionnant. C'est l'un des plus grands événements organisés, populaires, organisés sous l'Ancien Régime, puisque après, pendant le... Alors, l'événement était, lui, réservé plutôt à la cour, mais ensuite, avec du peuple, de la population qui arrivait, mais surtout, les vainqueurs avaient le droit ensuite de défiler à l'intérieur de la ville, dans les différentes paroisses. Donc ça sortait beaucoup de l'espace des Tuileries et du Louvre. Et donc un livre a été fait, 8 années plus tard, commandé à Charles Perrault par Colbert, qui est ce livre intitulé « Courses de têtes et de bagues faites par le roi et par les princes et seigneurs de sa cour » en l'année 1662. Et donc cet événement a eu lieu dans la cour des Tuileries, et c'est cet événement qui est à l'origine du nom de la place actuelle du Carrousel. Ça vient de ce grand carrousel, en fait. C'est pour ça qu'on appelle la place du Carrousel. Mais lisons Perrault. Lisons comment Perrault décrit le choix de l'événement et surtout le choix de la façon dont elle a été organisée. Ensuite, Sa Majesté approuva la proposition qui fut faite de représenter les nations les plus renommées, et non pas les barbares, et choisit ce dessin entre plusieurs comme le plus simple et le plus dégagé de tout mystère et de toute machine. C'est-à-dire, le plus dégagé de tout mystère, c'est le plus compréhensible, et de toute machine, donc celui qui demandait le moins compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Ce n'est pas que, continue Perrault, ce n'est pas que cette fête, c'est en fait, c'est pas très heureux ça, cette fête, c'est en fait peu de temps après la naissance de Monseigneur le Dauphin, on ne put dire qu'on avait eu intention de représenter toutes ces nations comme venant lui rendre hommage et le reconnaître pour celui qui doit un jour leur commander. Alors la phrase est un petit peu alambiquée avec cette double négation, mais ça signifie que mais ces circonvolutions sont intéressantes en elles-mêmes. Il est possible que, nous dit Perrault, il est possible qu'on ait eu intention de représenter toutes ces nations comme venant rendre hommage à Louis XIV. C'est possible, nous dit Perrault. Mais, ce qui est de très assuré est qu'on a eu d'autres desseins que d'établir quelque ordre en cette course et de donner lieu en même temps à la magnificence des habits. Sa Majesté choisit donc les nations les plus célèbres pour en former 5 quadrilles. Donc ce n'est pas 1 plus 4, c'est 5 quadrilles qui sont formées d'un seul coup, composées chacune d'un chef et de 10 chevaliers avec leurs officiers et leurs équipages. Donc les 5 quadrilles, qui sont, le terme ici est féminin pour désigner ces troupes de chevaux, de cavaliers lors d'un tournoi, c'est le substantif féminin ici, ces 5 quadrilles sont à égalité. La première nation fut celle des Romains, dont Sa Majesté voulut être le chef. La seconde, celle des Persans, qui eut pour chef Monsieur, frère unique de Sa Majesté, à savoir le duc d'Orléans. La troisième, celle des Turcs, qui eut pour chef le prince de Condé. La quatrième, celle des Indiens, conduite par le duc d'Enghien. Et la cinquième, celle des Sauvages de l'Amérique, conduite par le duc de Guise. Donc, vous le voyez par la tournure alambiquée qu'emploie Charles Perrault, ce n'est pas qu'on ne put dire qu'on avait eu intention. Perrault est presque gêné par le sous-texte impérial de la mise en scène. Il est possible donc, nous dit-il en substance, qu'on ait voulu marquer l'hommage de tout l'univers au grand roi. Mais, insiste-t-il, ce n'était pas l'intention fondamentale. Il ne s'agissait pas de mettre en scène le triomphe de la France sur les autres nations, mais d'abord et avant tout de trouver un moyen commode de distinguer différentes équipes par des costumes différents et spectaculaires. Et donc, il serait abusif de présenter toutes ces nations comme, à l'inverse de ce que dit Hélène Cassio, comme des zones d'intérêt colonial majeur pour la France. Ce n'était pas cela qui était l'objectif au départ, d'autant que la France n'avait aucune ambition coloniale, par exemple, en ce qui concerne les Persans. Il ne s'agissait pas d'envahir la Perse. On avait affaire plutôt à une représentation symbolique du monde, chaque nation, les plus célèbres, devenant un signe à dimension esthétique et sans dimension péjorative de ce monde. Alors, voici quelques indices de cette absence de dimension négative de la représentation de ces nations. Après le résumé factuel du grand Carrousel, qui est écrit en français, Charles Perrault compose un long poème héroïque en latin. On connaît moins les œuvres latines de Charles Perrault que ses contes, de fait, il y en a, voilà. Un long poème héroïque en latin qui célèbre l'événement. Et ce long poème latin est la pièce maîtresse, du point de vue littéraire, du grand livre offert au roi en 1670. En lisant ce poème, on apprend ainsi que la cinquième quadrille, celle des sauvages d'Amérique, conduite par le duc de Guise, fut celle qui eut le plus grand succès auprès du public, celle qui fut la plus acclamée, en dehors évidemment de la quadrille du roi, hein, comme de bien entendu, qui est évidemment dûment acclamée. Parce que c'était la plus impressionnante par les costumes, les costumes de peau de bête des membres de la cabrille, les morts accompagnés d'ours et de singes, les chevaux que vous voyez déguisés en licorne, la cuirasse que vous voyez en peau de dragon, hein, c'est ainsi que c'est nommé, la cuirasse en peau de dragon du duc de Guise, sa coiffe immense de 4 pieds de hauteur, hein, 1,20 m, vous voyez, firent une très forte impression sur le public. Les costumes n'étaient pas là pour être moqués, mais pour leur valeur spectaculaire, pour susciter l'intérêt, la curiosité. Pas de dimension négative, disons. Et comment du reste le duc de Guise aurait-il pu accepter que sa troupe paraisse ridicule ? Les nations représentées n'étaient pas soumises par nature l'une à l'autre. La preuve en est que la course de tête où il s'agit de remporter le plus de têtes possibles qui sont posées et que vous devez piquer avec votre lance, la course de tête qui eut lieu la première journée fut remportée par le marquis de Belfond, de la quadrille des Persans. Et la course de bague, la seconde journée, où là il s'agit d'accrocher une bague avec sa lance, la course de bague, la seconde journée, fut remportée par le comte de Sceaux, de la quadrille des Turcs. Et chaque fois, le roi donna une récompense au marquis de Belfond et au comte de Sceaux, les deux vainqueurs. Donc, vous voyez que les Persans et les Turcs avaient la possibilité de l'emporter sur les Romains français. C'était donc pas une représentation idéale de l'histoire qui était donnée, avec la victoire réservée au roi, mais un grand spectacle qui voulait se donner une dimension symbolique universelle. Et le plus intéressant, c'est que Charles Perrault lui-même semble avoir porté un jugement plutôt négatif sur l'impérialisme colonial. En introduisant la description du défilé des sauvages d'Amérique dans son poème latin, Perrault prend soin de critiquer l'hubris du colonialisme. Bon, je vous ai mis le texte latin, mais je ne vais pas le lire, je vais le traduire. Guise arrive à la tête des peuples qui habitent sous un autre soleil, en imitant tes parures, Amérique. Car c'est là que la soif maudite du gain, hein, lucri sacra fames, hein, une paraphrase du vers d'Horace, hein, Auri sacra fames, la soif maudite du gain et le désir malsain des richesses ont découvert les cachettes de la nature, les frontières les plus lointaines de l'Atlantique et des royaumes inconnus. Nous jouissons par ingéniosité d'un luxe étranger et connaissons toutes les manières qu'ont les peuples de se vêtir et de se comporter. Alors, vous conviendrez que dans cette description-là, quand même, il y a des manières plus enthousiastes de célébrer la découverte européenne du Nouveau Monde, et même s'il y a peut-être un caractère un peu convenu dans la description de ces vices qui sont à la base, à la fondation de cette entreprise coloniale, on ne peut guère accuser Perrault ici de montrer de complaisance avec la colonisation qui est décrite comme moralement viciée, hein, de l'intérieur. Et la citrouille. Alors c'est vrai. C'est vrai que Perrault est le premier à l'introduire dans l'histoire de Cendrillon. Dans une version précédente, mais il y a d'innombrables versions qu'on peut retrouver jusqu'à l'Antiquité, avec surtout c'est la question de la pantoufle qui permet de repérer enfin, il y a plusieurs morceaux, mythèmes, éléments de mythe qui permettent de repérer Cendrillon. Il y a le fait d'être auprès des cendres, l'histoire de la petite pantoufle de verre et du petit pied, dont on en trouve des exemples dans des contes égyptiens, hein, semble-t-il. Mais une version précédente, assez plus récente, c'est celle qui fut donnée par l'écrivain napolitain Giambattista Basile dans son recueil de contes « Le Pentamerone ». Le Pentaméron, donc écrit en napolitain, publié un peu avant Charles Perrault, de 1634 à 1636. Cette version s'appelle la Gatta Cenerentola, c'est-à-dire la chatte cendreuse ou la chatte des cendres. Et là, il y a une plante magique aussi. L'histoire est assez compliquée, un peu différente de celle de Cendrillon, mais il y a une plante magique d'où sort une fée. Mais cette plante magique, c'est pas une citrouille, c'est un dattier en pot. Vous voyez que les plantes peuvent changer. Donc Perrault ne connaissait vraisemblablement pas la version de Basile, qui n'avait pas encore été traduite, puis elle était en napolitain. Mais on constate avec ce texte de Giambattista Basile que l'idée de la plante magique, d'où sortent des créatures, ne vient pas des Taïno. Hein. C'est un mythème universel. Perrault introduit une citrouille dans ce conte, en fait, il y a un conte dont on trouve des versions beaucoup plus lointaines, et voilà, il fallait une plante, mais pas nécessairement. Mais pourquoi une citrouille? Pourquoi une citrouille? Ben d'abord parce que la citrouille était, au XVIIe siècle, un légume mais totalement commun et assimilé au potager français. Non seulement Perrault n'avait sans doute aucune connaissance des mythes Taïno, mais surtout il y a des chances qu'il n'ait pas eu conscience de l'origine exotique de la citrouille. On pourrait dire que c'est un effacement, oui. Mais la citrouille, en effet, apparaissait dans la cuisine française depuis plus d'un siècle. On en trouve dans des livres de jardinage, de médecine, de cuisine française du XVIe siècle, on trouve déjà de nombreuses mentions de la citrouille, qu'on appelle aussi concombre d'Italie. C'est-à-dire que l'origine mexicaine et exotique n'était pas nécessairement sensible. On pensait que ça pouvait venir d'Italie. Donc elle avait été totalement intégrée et assimilée. En 1690, Furtière, dans son dictionnaire universel, met un article citrouille, bien sûr. Citrouille, substantif féminin. Le plus gros de tous les fruits qui rampent sur la terre. Il est de figure cylindrique et oblongue. On mange de la citrouille en potage et en fricassé. Ça n'a pas trop changé. Citrouille ou thé est celle qu'on cueille après le mois d'août. La graine de citrouille est une des quatre semences froides, en latin citrina cucurbita. On l'a appelée aussi citrullus et citrullus dans la basse latinité. On l'appelle autrement courge de Turquie. Et voilà, maintenant c'est plus l'Italie, c'est la Turquie. Donc ça vient d'ailleurs. Et puis alors, le sens figuré, on appelle figurément une femme dont la taille est grosse et mal faite une grosse citrouille. Voilà. On voit ça dans plusieurs dictionnaires. Hein. Au XVIe siècle déjà, cette mention-là de la grosse citrouille apparaît. Donc, au plus lointain, la citrouille apparaît comme venant de Turquie. Mais pourquoi une citrouille? Revenons au texte de Perrault, du conte cette fois. La marraine mena Cendrillon dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Moi, j'adore l'humour de Charles Perrault. Évidemment, Cendrillon se demande quel est le rapport entre une citrouille et le fait d'aller au bal. Bon. Sa marraine la creusa et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette. Et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière, où elle trouva 6 souris, toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux, d'un beau gris de souris pommelées. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher, et c'est là qu'il y a, c'est intéressant, là, cette fois-ci, c'est Cendrillon qui prend l'initiative, hein, elle a compris comment fonctionnait la magie. Donc, comme elle était en peine, la marraine était en peine de quoi elle ferait un cocher, « Ah, je vais voir, des Cendrillons, s'il n'y a pas quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. » Vous voyez, c'est maintenant la Cendrillon qui a compris comment ça fonctionne. « Tu as raison, dit sa marraine, va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3 à cause de sa maîtresse barbe et, l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Alors, bon, c'est formidable ce texte, hein, plein d'humour. Voilà. Pourquoi la citrouille? La réponse, vous l'avez dans le texte. Tout simplement parce que Charles Perrault a cherché à donner une dimension rationnelle et vraisemblable à la magie de la marraine. Les souris, vous l'avez vu, sont métamorphosées en 6 chevaux d'un beau gris de souris pommelées. La moustache d'un gros rat devient la moustache du gros cocher. Et pour le carrosse, et c'est ça l'important, le carrosse est le plus important, il fallait à Pérou et à la marraine, surtout il fallait un objet commun qu'on puisse trouver comme ça, assez gros pour faire un carrosse. Alors, vous rappelez ce que dit Furetière, c'est le plus gros des légumes du potager. Il fallait un légume rond et dont la couleur évoque l'or et le luxe. Ben voilà, la citrouille s'impose. Et vous remarquez que la marraine prend bien soin de l'évider pour laisser de la place à la passagère, pour que Cendrillon puisse s'installer à l'intérieur du vide de la citrouille. Et voilà, voici l'illustration que fait au XIXe siècle Gustave Doré de cette scène fameuse. Gustave Doré a bien compris ce qui se passe. Il faut évider la citrouille, c'est ce que dit Charles Perrault, pour permettre de mettre Cendrillon dedans. Donc c'est très différent de Disney, où Disney, vous avez juste la citrouille, un coup de baguette magique, et voilà, la citrouille se transforme en carrosse. Ici, pour Perrault, il s'agit de rationaliser, de rendre tout cela, en quelque sorte, vraisemblable. Et donc c'est justement parce que cette plante, la citrouille, est commune, et qu'elle n'apparaît pas comme extraordinaire, qu'elle figure dans le conte, et non pas parce qu'elle paraît comme extraordinaire et exotique. Et donc, ça n'a rien à voir avec de l'exotisme et du colonialisme, n'en déplaise à Hélène Castillo. La lecture qui unit la citrouille de Cendrillon au mythe taïno de création de l'océan est donc fausse. Elle est fausse du point de vue de la circulation des images. Je ne dis pas que le mythe existait, bien sûr. Il est oublié maintenant. Il a été oublié. Mais Cendrillon n'est pas un conte colonial caché qui viendrait en quelque sorte parasiter un mythe taïno. Et du reste, nous avons vu à l'instant que Charles Perrault lui-même était un peu mal à l'aise avec le symbolisme impérial du grand carrousel de 1662. Mais ce qui est vrai, toutefois, c'est qu'une même plante, ou des plantes voisines, la citrouille, ainsi que les diverses formes de courge, parce qu'il y avait aussi en Europe, avant du reste la colonisation américaine, Il y avait différents types de courges, plus ou moins grosses. Tout cela, c'est la citrouille et les diverses formes de courges apparaissent dans des histoires diverses, mais sans qu'il y ait de généalogie nécessaire d'une histoire à l'autre. Cendrillon n'a pas effacé la légende de Yaya en se l'appropriant, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que dans le propos de Castillo, on entend surtout une condamnation de ce qu'on nomme aujourd'hui, j'ai déjà employé ce terme, ce concept, ce qu'on nomme aujourd'hui l'appropriation culturelle. Alors, entendons-nous bien. Lorsqu'il s'agit de biens matériels, d'objets, de biens non reproductibles, d'objets d'art, de ressources rares, qui peuvent être des ressources animales, végétales, de minerais, des minéraux, etc., s'approprier ces biens aux dépens du pays ou du peuple qui les a produits, c'est évidemment un crime. Mais ça, c'est pour les biens matériels. Mais lorsqu'il s'agit des biens immatériels, c'est-à-dire des histoires, des textes, des recettes de cuisine, des styles de vêtements, l'appropriation culturelle, en fait, elle est la règle de toute culture. Toute culture est faite d'emprunts, toute culture est faite de transferts, d'hybridation. Lorsqu'il s'agit de biens immatériels, l'accusation d'appropriation culturelle, qui est très courante maintenant, n'est souvent qu'une arme. Une arme au service de la limitation de la liberté de penser, au service du cloisonnement des peuples, du cloisonnement des cultures. Or, la perméabilité des cultures, la circulation des œuvres, sont une donnée fondamentale de l'histoire de ces cultures, même si nous savons au prix de quelles transformations, au prix de quelles trahisons ont lieu tous ces transferts culturel. Pour autant, et je conclue ici, le cas d'Hélène Castillo nous montre comment une sensibilité particulière, une histoire particulière ou une histoire familiale singulière, comment tout cela change la réception des textes et des œuvres, et comment on devient alors sensible à des aspects du texte auxquels les autres lecteurs n'avaient pas pensé. Et cela enrichit l'éventail des sens qu'un texte est susceptible de produire. Donc il faut que les textes circulent pour qu'ils soient lus par d'autres personnes que ceux à qui ils étaient adressés. Mais attention, on enrichit l'éventail des sens, mais comme nous l'avons vu dans mon cours, au cours de la première année, en 2020, sur les étoiles nouvelles, ça ne veut pas dire que tous les sens soient, soit possible. Il y a des sens qui sont proprement impossibles, d'autres qui sont plus ou moins probables dans les textes. Mais un lecteur ou une lectrice imprévue a la capacité de réactualiser le sens de texte que l'on croyait trop connu. Et cela est vraiment précieux. Alors c'est vrai, dans le monde actuel, chaque lecteur, chaque lectrice prétend s'appuyer, c'est un peu la doctrine aujourd'hui, prétend s'appuyer sur sa propre idiosyncrasie pour condamner ou pour écarter telle ou telle œuvre. Ce n'est pas tout à fait ce que fait Hélène Castillo, qui est beaucoup plus subtile que cela, et c'est pour ça que j'aime bien son texte, son livre, et c'est pour ça que je me suis appuyé sur elle, parce qu'elle fait ça de manière intelligente et pas de manière, pas pour censurer. Mais écoutons la conclusion d'Hélène Castillo sur cette réflexion sur les lectrices, sur la lectrice imprévue. Il y a un poème du poète latin Horace que j'aime depuis des années. Ce poème fonctionne aussi comme la critique d'une certaine forme d'écriture, d'une certaine forme de mythification. Horace dit dans une ode sur l'œuvre d'un autre poète, c'est l'ode 19 du livre 3 des Odes, Horace s'adresse au poète en question, poète épique donc, « Tu parles de la descendance d'Éaque. » Éaque, c'est-à-dire les Acides, Achille était le petit-fils d'Éaque. Donc tu parles d'Éaque, d'Achille, et des combats livrés sous les murs de la Saint-Ilion, donc sous les murs de Troie. Donc tu parles de la guerre de Troie. Mais, tu parles de tout cela, mais tu restes silencieux sur le prix d'une jarre de vin de Kyo. Tu ne dis pas qui chauffera l'eau de mon bain, ni quand et où je serai à l'abri des gelées pélignienes. C'est-à-dire les gelées des monts Péligné, donc il faisait particulièrement froid, donc des gelées particulièrement froides. Donc voilà, Horace nous dit, oui, la poésie épique, c'est pas mal peut-être, mais enfin, il faut aussi parler, en tout cas, du réel aussi, des choses qui sont autour de nous, de la vie quotidienne. Et Horace, donc, continue Hélène Castillo, Horace a quelque chose d'important à nous dire sur la lecture des coloniales. En tant que personne confrontée à l'héritage des récits, aux dommages qu'ils peuvent causer jusqu'à la destruction de nos noms, notre tâche ne consiste pas seulement à parler des arbres généalogiques de nos grands héros ou des batailles sacrées de Troie. La lecture des coloniales consiste à prêter attention au prix d'une jarre de vin de Kyo, à prêter attention à qui chauffe l'eau du bain. La lecture des coloniales nous indique où trouver un abri contre les gelées péliniennes. Elle implique de rejeter l'expression « il était une fois » comme une fiction commode, une fiction unilatérale. Il y avait un lieu, il y avait des gens, ils avaient des noms, ils mangeaient de la citrouille. C'est pas mal, quand même, hein, cette façon de faire servir Horace à une apologie de la lecture des coloniales. C'est beau, je trouve. C'est beau, c'est lyrique. Et j'aime que Hélène Castillo cite cette belle ode d'Horace. C'est-à-dire, donc voilà, il faut parler des plus petites choses, des choses oubliées, des êtres oubliés. Et je crois que c'est vrai, c'est totalement vrai. L'histoire de la littérature, on peut le voir, est un combat permanent contre le silence. Hélène Castillo, comme Horace, participe à ce combat. Comme Charles Perrault aussi. Charles Perrault qui voulut, avec ses contes de fées, ses contes de ma mère loi, qui voulut conférer aux histoires de nourrice une dignité qu'on leur refusait, à ces histoires de, entre guillemets, bonnes femmes, hein, qui étaient dévalorisées, qu'on racontait aux enfants. Et donc, c'est ce qu'on avait vu déjà l'an dernier, on a parlé de cela l'an dernier. Mais, ce qu'il faut ajouter simplement, c'est qu'une lecture dictée par la seule sensibilité personnelle ou par le sentiment de l'injustice ne suffit pas. Il y faut encore de la science, de la raison. Il faut savoir se détacher surtout du mythe des origines et des appartenances. Les histoires et les légendes sont comme les citrouilles. Elles prolifèrent sans mesure. Mais elles sont plus souvent cousines les unes des autres qu'héritières en ligne directe de l'une ou de l'autre. Si parler de Cendrillon nous amène à ressusciter un mythe oublié du peuple Taïno et à le faire connaître, alors, ben, tant mieux. Il faut juste se rappeler, comme nous l'avons vu, que les mots, les images, les thèmes sont libres de droit et que la citrouille qui fut mangée et mythifiée par le peuple taïno n'est pas, malgré les apparences, la même citrouille que la citrouille de Cendrillon. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.